Enfin, je déménage. Je suis restée plusieurs mois dans cette cellule, puis je suis descendue au rez-de-chaussée. Dans mon univers désespérément uniforme, ce changement est un événement. Mais je suis toujours seule. Très vite, je me rends compte qu'au même niveau, d'autres cellules sont occupées. Il y a une jeune fille dans une cellule près de la mienne. Au travers du mur, nous pouvons nous parler. Je comprends tout de suite que nous sommes de la même affaire. C'est Edmond Robert, une institutrice de Falaise. Sans nous connaître, sans nous voir, nous sommes devenus des amis. Edmond Robert, durant sa détention, fit l'admiration de ses camarades de captivité par son attitude face au geôlier allemand. Elle se montra digne et courageuse lors des interrogatoires avec sévices que lui firent subir les professionnels de la Gestapo et leurs valets français. Au cours d'une promenade, j'ai aperçu maman. Elle aussi était arrivée au quartier allemand. Une autre fois, j'ai aperçu Gisèle Guillemot. Quel étonnement de se retrouver. Tristesse aussi, puisque sa présence ici, tout comme la mienne, témoigne de l'interruption de notre action. Impossible de parler, pas même un signe. Toujours la prudence. À partir de ce moment, je suis quasiment certaine que les Allemands ont établi mon appartenance au groupe. Mes craintes antérieures seraient donc fondées. Vers le mois d'avril, les interrogatoires reprennent, mais cette fois avec la Gestapo. Ils ont lieu au bureau de la Kommandantur, ancien hôtel Malherbe. Dans cet univers carcéral, fait de vicissitudes et de peurs, j'apprends qu'il est possible que maman soit innocentée pour l'affaire de Caen. Il n'y a aucune preuve contre elle. J'apprendrai plus tard qu'elle fut libérée après mon départ pour Fresnes. Les services de la Gestapo de Caen, peut-être aiguillonnés par leur supérieur rouennais, veulent en finir avec cette affaire. Les interrogatoires sont plus fréquents. Ils changent de ton. Deux fois, je suis interrogée une journée entière. Les hommes de la Gestapo s'y mettent à plusieurs. Ils me menacent des pires cruautés. Je suis bousculée et giflée plusieurs fois. Je résiste, je ne parle pas. Je reviens de ces séances complètement épuisée. J'appréhende toujours les prochaines. Quels moyens vont-ils employer? Pourrais-je tenir sous la torture? La Gestapo et ses sadiques valets en usent souvent, dit-on. Et ces derniers y éprouvent même une certaine satisfaction. Ne pas parler, je ne parlerai pas. Je me répète sans cesse ce leitmotiv jusqu'à ce que ma personnalité en soit imprégnée, qu'elle soit incapable de réagir autrement que par le silence, le refus. Sans que la raison soit pour quoi que ce soit dans ce comportement. Confrontation avec Gisèle ou Annick. Nous avons, Gisèle et moi, préalablement à une confrontation, eu à faire face à une situation que nous aurions aimé rencontrer plus souvent lors des interrogatoires subis à la Gestapo. Amenés à l'hôtel Malherbe, bureau de la Gestapo, nous nous trouvons dans une pièce en présence de policiers en civil, comme c'était le cas habituellement. Il semble que cette fois, le moment ne soit pas venu de nous interroger. Pour nous faire attendre, nous sommes introduites dans un bureau où se trouve, seul, un soldat allemand travaillant sur une machine à écrire. Le policier en civil qui nous accompagne nous place de part et d'autre de la pièce en nous ordonnant de nous tourner face au mur, avec interdiction formelle de parler. Ainsi, ne pouvant nous voir, nous ne pouvons communiquer. Avant de sortir du bureau, il fait en allemand des recommandations aux soldats, sans doute pour que nous restions dans cette position et gardions le silence. Ce que nous faisons. Le temps passe. Seul le bruit de la machine à écrire meuble le silence. Nous commençons timidement, furtivement, par tourner la tête. Aucune réaction. Puis, enfin, nos regards se croisent.